en prison pour avoir voulu fuir Hong Kong, entre 7 mois et 3 ans de prison pour 10 Hongkongais arrêtés en mer alors qu'ils voulaient rejoindre Taïwan, jugés en Chine. Deux mineurs ont été relaxés à l'issue de ce procès symbolique de la reprise en main par Pékin d'un territoire de moins en moins autonome. Bonjour Jean-Philippe Béja.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et Sciences Po Série, spécialiste de la politique chinoise. Ce procès a donc eu lieu en Chine. Est-ce que on peut parler d'un procès juste et équitable ?
Bon, écoutez, c'était soi-disant un procès public. Or, le public n'a pas pu y aller. Les inculpés n'ont pas pu choisir leur avocat. La famille n'a pas pu se rendre au procès. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que les médias officiels ont annoncé que des membres de la famille avaient participé à ce procès, avaient assisté, alors qu'aucun membre de la famille ne les connaît. C'est-à-dire que c'était comme très souvent en Chine, lorsqu'il s'agit d'un procès sensible notamment, un procès dans lequel le public était essentiellement des personnes envoyées par la sécurité. Donc, bien sûr, ils ont eu des avocats commis d'office, et ce qui est encore plus grave, disons, c'est que l'agence Chine Nouvelle a annoncé qu'ils avaient déclaré que c'était un procès excellent et qu'ils avaient été trompés jusque-là sur le système judiciaire chinois et que maintenant ils avaient compris que dans ce système, on défendait les droits des accusés. Donc on voit très bien que ce n'a aucune réalité tangible.
Alors, depuis le vote à Pékin de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, les arrestations de militants pro-démocratie se multiplient, les condamnations aussi. Le jeune opposant Joshua Wong, le patron de presse Jimmy Lai. Comment la population à Hong Kong réagit face à cette succession d'arrestations et de procès ? Est-ce qu'elle réagit d'ailleurs ?
Bah, écoutez, là c'est très difficile de réagir parce qu'il y a cette alerte coronavirus qui interdit toute manifestation. D'autre part, il faut bien voir que manifester est aujourd'hui extrêmement dangereux. Ne serait-ce que crier des slogans peut vous mener devant les tribunaux pour violation de la loi sur la sécurité nationale. Mais malgré cela, il y a effectivement des réactions importantes. Il y a un très 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 fort mécontentement. Les gens sont très inquiets de l'intervention de plus en plus directe de la Chine dans les affaires de Hong Kong et aussi de l'incapacité totale du gouvernement de Hong Kong à défendre les intérêts de la population. Donc c'est une grande inquiétude notamment sur l'indépendance de la justice qui est un élément essentiel de l'autonomie de Hong Kong. Alors il faut bien voir que par exemple avant-hier, le quotidien du peuple a eu un article du commentateur, ce qui est quelque chose de très important pour dénoncer la libération sous caution de Jimmy Lai, qui est accusé de fraude et d'avoir violé la loi de sécurité nationale. C'est extrêmement grave que le quotidien du peuple, qui est quand même la voix officielle du Parti communiste chinois, critique une décision de justice de Hong Kong, alors que théoriquement, dans la formule un pays deux systèmes, Hong Kong bénéficie d'une justice indépendante. Donc tout ça, si vous voulez, les libertés dont Hong Kong jouissait encore il y a un peu moins d'un an, sont en train de disparaître à une vitesse qui était totalement inimaginable il y a seulement 6 mois.
Est-ce que Pékin a profité de la pandémie mondiale de coronavirus pour mettre au pas Hong Kong ?
Oh ben bien entendu, hein, c'est évident. Rappelez-vous, il y avait des manifestations tous les jours l'année dernière jusqu'au mois de décembre et au mois de janvier, et depuis le mois de février, il n'y en a plus aucune. L'interdiction, par exemple, de la veillée commémorative du massacre du 4 juin 89, qui est un événement extrêmement important qui se produit depuis 30 ans à Hong Kong, a été interdite à ce moment-là pour raison de coronavirus. Et évidemment, le reste du monde était tellement occupé à lutter contre la pandémie que Pékin s'est dit que c'était le bon moment pour intervenir. Mais il y avait de toute façon cette volonté exprimée depuis environ la fin de l'année dernière. On ne pensait pas que ce serait si rapide et effectivement les réactions, à part bon, les États-Unis ont quand même réagi de façon assez ferme ainsi que la Grande-Bretagne, mais on peut dire que ça n'empêche pas apparemment l'Union européenne de signer un accord d'investissement avec la Chine.
Justement, l'Union européenne hier a réclamé la libération de ces 12 Hongkongais arrêtés en mer et jugés et donc condamnés pour 10 d'entre eux. Les Européens peuvent-ils être audibles alors qu'en même temps, comme vous venez de le dire, ils s'apprêtent à signer cet accord sur les investissements avec Pékin? Il y a d'ailleurs une visioconférence cet après-midi entre le président chinois Xi Jinping et les 27.
Oui, d'ailleurs, là, on ne comprend absolument pas l'urgence qu'il y a à signer cet accord qui est en négociation depuis 7 ans, avant même la prise de pouvoir du nouveau président américain. C'est quelque chose
d'extrêmement bizarre. C'est une faute des Européens, selon vous ?
Écoutez, oui, je le pense vraiment. Alors, je sais que Angela Merkel va prendre sa retraite et qu'elle voudrait peut-être finir sur un succès. Je pense pas que ce soit un succès. On sait très bien ce qui se passe au Xinjiang avec le travail forcé des Ouïghours. Les Européens n'ont rien obtenu sur la question des droits de l'homme. Or, c'était justement une bonne occasion, si on peut dire, cette fois-ci, de repousser la signature et de la soumettre à la libération, justement, d'un certain nombre de défenseurs des droits que l'Union Européenne a demandé d'ailleurs. Mais elle se contente, comme d'habitude, de faire une petite déclaration et de n'exercer aucune pression.
Est-ce que Pékin a plus à craindre de Joe Biden, le futur président des États-Unis ?
Écoutez, c'est encore difficile à dire, mais disons que Joe Biden risque d'être un peu moins fantasque que son prédécesseur. Alors, il faut bien dire que dans les derniers mois, Trump a été extrêmement ferme vis-à-vis de la Chine, et on ne peut pas dire qu'il ait eu tort, notamment sur la question de Hong Kong, mais aussi sur la question du Xinjiang. Je pense que c'est un problème extrêmement important. Si la Chine veut être intégrée sur la scène internationale, il faut qu'elle respecte un minimum de critères de respectabilité, disons, mais Biden sera peut-être moins fantasque, c'est-à-dire que Trump avait au début parlé de son grand ami Xi Jinping, et rappelez-vous, il avait dit il y a un an seulement que les événements de Hong Kong étaient des événements intérieurs à la Chine. Je pense que Biden ne commettrait pas ce genre d'impair, mais c'est probable qu'il aura aussi un discours plus raisonnable et plus rationnel et qu'il essaiera d'améliorer dans une certaine mesure les relations avec la Chine. Simplement, Trump, il a annoncé qu'il voulait justement se mettre d'accord avec les Européens pour adopter une politique commune. Malheureusement, l'Union Européenne se comporte d'une façon très incompréhensible.
Merci beaucoup Jean-Philippe Béja d'avoir répondu à nos questions. Il est 13h22 à Paris.